Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui croustille.
Merci Croc.
Oui, nous avons une alimentation saine et variée lors de nos émissions.
Non, d'habitude oui, mais là non.
D'habitude on a la pizza, on est passé au fast-food, super.
Non, parfois on a des pâtes aussi.
Vous écoutez donc le One A Club, le podcast sur la bande dessinée. Alors si vous nous découvrez, parce qu'il y en a qui nous découvrent, et en fait on oublie toujours qu'il y a des gens qui peuvent découvrir notre podcast, eh bien nous sommes une émission où nous parlons tous les 15 jours de bande dessinée.
Voilà, d'où celle qu'on voit pied là, il a une tête mais énorme.
Oui,
mais alors une espèce de teston, il a été obligé de prendre deux casques ce soir.
Donc j'ai décidé d'être didactique où nous essayons de parler de choses plus ou moins vieilles, de quelques nouveautés. Et le but, c'est de partager nos lectures, car nous avons à plusieurs lu les BD. Et voilà, là ils sont en train d'écrire des trucs à côté. Et donc
comme son habitude, l'écriture de Matt est juste illisible.
Et donc pour m'accompagner sur cette émission, j'ai L'homme qui a la barbe la plus douce du podcast, l'homme qui sait se frotter contre les micros avec aisance, Thio. Bienvenue Thio.
Merci, bonsoir.
À côté de lui, nous avons le plus grand, le meilleur serveur, celui qui, s'il se reproduisait, apporterait l'apocalypse,
non.
Isaac.
Je ne sais pas si je dois dire merci, mais bonsoir quand même.
Ouais, aussi on peut dire non en fait, il ne faut pas qu'il se reproduise.
Et nous allons donc vous parler d'un programme un peu plus light, ça y est, on est revenu sur des programmes tranquilles après avoir fait nos émissions avec 50 000 bandes dessinées. Et nous allons donc, dans cet épisode 66, si j'arrive à appuyer sur les gros boutons avec mes gros doigts, parler de...
Les petits boutons avec tes gros doigts.
Ouais. Vous parler de Billy Bat, le tome 4, de L'Attentat, de Damien, de Un printemps à Tchernobyl, puis nous parlerons un peu en avant... de Rourke en splash page. La splash page, c'est la BD qu'on veut mettre en avant cette quinzaine. Et nous retrouverons aussi peut-être, j'ai pas réussi à la voir depuis, Merton qui va nous donner les actus de la rentrée.
Merton avait du taf,
on a eu un peu du mal à le choper ces derniers temps.
Bon, si pour la suite, il y aura forcément beaucoup d'actus.
Ouais, on verra. Ouais. Parce que moi, j'ai noté quelques trucs, on verra. Donc, c'est la surprise totale. Si vous nous avez voté pour nous au Golden Blog Awards, merci beaucoup, ça nous fait grandement plaisir. Alors c'est mal barré pour gagner, mais bon, c'est pas grave.
Sinon ça veut dire que vous nous avez pas écouté, donc tant pis.
Vous pouvez toujours voter pour nous au European Podcast Award, les liens sont toujours sur le site.
On sera peut-être Miss Europe.
Dis-moi si je dis ça à mes parents.
Ouais,
c'est la classe. Fier, hein.
Et on voulait aussi vous annoncer que...
Tiens chérie, je t'ai fait un gâteau à la semoule pour féliciter.
D'ici quelques temps, nous allons enregistrer un épisode que nous espérons mythique, qui est l'épisode 69. Cet épisode 69 sera, coïncidence, en pleine période pour nos 3 ans. On va fêter les 3 ans de notre podcast. Donc on va essayer, comme l'an dernier, de faire un live un peu plus soft.
Ce sera au moment de Noël.
Ouais, à peu près de Noël.
Pour les petits-enfants.
Et donc un podcast où nous nous attacherons à la bande dessinée érotique. Si vous avez des choses dont vous voulez nous parler sur le sujet, parce que c'est un sujet dont on parle assez peu dans notre émission en général, car nous sommes prudes et chastes. Ouais. Bien, c'est avec plaisir que on pourra peut-être vous accueillir. On ne sait pas exactement comment on va faire encore notre live. J'espère que ça pourrait se faire. Hein. On s'en était bien tiré l'an dernier.
Bref, si vous avez des idées, des envies de...
La fin avait été plus dure, mais on s'en était bien tiré l'an dernier.
C'était quand même l'épisode...
C'était l'arrivée d'Isaac.
L'arrivée d'Isaac dans le podcast.
Et d'ailleurs, tu ne t'en étais pas remis.
Non, je ne suis pas remis.
Il a voulu goûter à tous mes cocktails.
Ça a été difficile. Eh ben on va commencer peut-être par Merton, peut-être.
Ben voilà, ça c'était le jingle d'intro. Hein.
C'est les news.
Et il est là. Nous perdons le Thio par contre au passage, mais nous avons réussi à choper Merton pour la deuxième fois.
C'est exactement, je suis re-là. Bonjour tout le monde.
Et oui, grâce aux news maudites, nous avons fait une session d'enregistrement qui a bien foiré et donc on a bien répété pour le coup.
C'est ça.
On recommence.
Là, on est vraiment au taquet, on connaît nos sujets par cœur, tout va bien.
Attends, je vérifie, ça enregistre. Ouais, ça enregistre.
Ah, c'est cool. C'est cool.
Et c'est très cool. Donc, au niveau des news, mais de quoi allons-nous parler ? Parlons par exemple de Comixology Submit.
Ouais, exactement. Alors, j'en ai déjà parlé hier, mais vous ne l'avez pas entendu, du coup. Alors, non,
c'est on ne va pas refaire à chaque news.
Non, on ne va pas la faire à chaque news. Alors, Comixology, vous connaissez peut-être, c'est la boîte qui est derrière l'appli officielle Marvel, l'appli officielle DC, pour pouvoir lire ses comics sur téléphone, sur tablette, enfin, en version numérique.
Et qui ont aussi leur petite appli perso où il y a plus de bandes dessinées, d'éditeurs, enfin, les versions américaines, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas DC ni Marvel.
C'est ça, exactement. Et c'est quand même, je dirais, le poids lourd de la BD numérique. Hein. C'est clair que c'est quand même, c'est un peu l'acteur principal outre-Atlantique.
C'est le Isneo des Américains. Sauf que je pense qu'il marche mieux.
Je pense aussi. Alors, pourquoi on vous parle de Comixology ? Parce qu'ils ont décidé de lancer un nouveau projet, là, où, en fait, des auteurs indépendants vont pouvoir s'auto-publier directement sur le portail Comixology. Donc, ça s'appelle Comixology Submit. On peut envoyer sa BD, il y a un comité de sélection derrière.
Ouais, quand même, il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi, parce que moi, je fais une BD, là, maintenant, hein, vite.
Heureusement, parce que sinon, oui, ça, on serait vite noyé. Mais derrière, on peut, enfin, ils peuvent vendre du coup les auteurs leur BD à partir de 99 centimes de dollars, et ils récupèrent 50% des royalties sur tous les supports normaux. Sauf Apple, du coup, qui évidemment prend aussi sa petite marge.
Donc ça fait 35%. Donc en gros, ils répartissent toujours équitablement avec le.
Avec ils arrondissent même au supérieur, hein, c'est ça ?
Ouais, non, parce que je crois que c'est 30% qui prennent Apple, donc.
Voilà. En tout cas, c'est quand même plutôt pas mal. Là, ça peut ouvrir pas mal de choses sur la BD numérique. C'est à mon avis un projet vraiment à suivre, quoi.
Comme il le disait sur l'article que j'ai trouvé sur Good E-Reader, pas de quoi de faire des millions, mais un bon moyen de se faire connaître et de mettre un pied dans l'industrie, quoi.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on se demande quand est-ce qu'on pourra voir ce genre de choses chez nous, hein, parce que ça tarde à venir quand même.
Ouais, il me semble que BD Buzz propose un peu ce genre de truc. C'est un peu l'idée de ce que propose BD Buzz.
Le problème étant qu'on n'a pas assez de lecteurs sur ce genre de support en France pour que ce soit rentable pour les artistes, quoi.
Et oui.
Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une affaire vraiment à suivre. Et à mon avis, on devrait en réentendre parler assez rapidement, parce que c'est déjà en bêta le truc, et ça devrait sortir en début 2013. Donc on devrait en entendre parler rapidos, quoi.
Voilà. Bah moi, ce que j'espère, c'est que on aura quelque chose peut-être qui arrivera jusqu'en France d'une façon ou d'une autre. On verra.
C'est ça. Ouais, on verra bien. Mais
Comixology, y a rien en VF, hein, il me semble, dessus.
Donc. Non, y a rien. Non.
Enfin, comme on le disait, c'est pas eux qui vont gérer les droits internationaux.
Exactement, c'est pas demain la veille, hein, y a encore du boulot de ce côté-là.
Mais voilà, Tipa, qu'on a un nouveau dessinateur sur Astérix.
Alors ça, hein, alors on l'avait annoncé quand même, le nouveau dessinateur sur Astérix, il y a quand même quelques mois, mais...
scénariste qui avait été annoncé, Prince. C'était Ferry qui avait été annoncé en tant que scénariste.
Alors, Ferry en scénariste, et moi je me souviens, on avait annoncé Mebarki sur le dessin, il l'avait déjà annoncé, hein, de ce côté-là, ouais. Et apparemment, non, ce ne sera pas lui, c'est même sûr, ce sera Didier Conrad qui va reprendre le dessin du prochain Astérix.
Donc Didier Conrad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le dessinateur et aussi, je crois qu'il est aussi auteur, mais il est surtout connu pour son travail de dessinateur sur, par exemple, Les Innommables.
Ouais, c'est ça.
Et que donc c'est quelqu'un qui a une veine très franquinienne en tant que dessinateur.
C'est ça, non. Et puis à côté, il a fait des Kid Lucky, il a fait les enfants des Marsupilamis, là, je sais plus comment ça s'appelle, les Marsu Kids. Donc ouais, enfin très franquin, oui, Marsu Kids, exactement.
Oui.
Donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que Mebarki a un peu, enfin voilà, apparemment, c'était un peu compliqué pour lui. Il a pas eu les épaules.
Alors, en gros, tel que c'est raconté, il se serait fait dessus parce qu'il ne se sent pas d'assumer tout l'argent qui lui serait tombé dessus en devenant dessinateur.
Ouais, c'est ça. Et puis bon, enfin, peut-être la pression d'un nouvel Astérix, etc. Enfin, voilà. Mais c'est un peu bizarre parce qu'il bossait quand même sur les produits dérivés Astérix depuis des années. Il était encreur sur la série officielle. Ouais. Donc bon, enfin, il était quand même habitué à faire du Astérix, quoi.
Alors après, on peut y aller. Après, on peut y aller côté mauvaise foi, genre bon, on va dire que ils ont préféré prendre une valeur sûre au niveau dessin et quelqu'un qui ferait parler de lui dans le milieu de la BD. Et puis on peut y aller moins cynique en se disant que oui, bon, peut-être que c'était un bon technicien, mais peut-être pas non plus un bon narrateur, et que même s'il savait bien dessiner les personnages d'Astérix, il était peut-être pas très très fort en mise en page et compagnie.
C'est ça. Bon, en tout cas, je dirais que c'est quand même bien qu'il y ait du sang neuf sur Astérix. Hein. Enfin, ça manquait sur les derniers tomes. Et quand même, hâte de voir un peu ce que ça donne, du coup, avec les nouveaux dessins et avec tout ça, quoi. Enfin, voilà, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle que ça bouge un peu.
Oui, parce qu'Astérix, il était temps qu'il change quelque chose.
Bah, exactement comme l'arrivée de Pennac et Benacquista sur Lucky Luke, où le dernier, là, moi j'ai super hâte de le lire parce que celui d'avant était vachement bien. Les derniers Astérix c'était quand même super poussif, pour pas dire pire. Donc moi j'ai quand même hâte de voir un peu ce que ça va donner, quoi.
D'accord. Eh ben, on attend ça avec impatience, mais c'est vrai que je serais plus curieux de le lire que celui avec les extraterrestres.
On est bien d'accord. C'est pas dur.
On annonce la mort de Georges Cholet.
Bah ouais, c'est un peu triste. Bon, il avait 81 ans. C'était le papa de Fantomette, des Quatre As, et donc il est décédé. Voilà, c'est le 13 octobre dernier. Et c'est quand même un peu un monstre de la BD qui vient de partir, quoi. Là, c'est, enfin, je sais pas. Moi, c'est vrai que Fantomette, tout ça, j'aimais bien quand j'étais petit.
Moi, je connaissais plus les Quatre As. J'avais bien aimé Étant môme, mais Étant môme, je lisais tellement tout ce qui me tombait sous la main et j'étais très très bon public. J'avoue que pour y retomber dessus, j'ai trouvé que ça avait un petit peu vieilli graphiquement et scénaristiquement. C'est vrai qu'on est dans de la littérature jeunesse bonne enfant. Qui a pris un petit coup de vieux par rapport à ce qui se fait maintenant.
Bah, mais ça avait commencé en 50-57, hein, les 4 As. Enfin, c'est assez logique.
Petite nostalgie désuète des trucs qu'on lisait quand on était enfant.
Exactement. Voilà. Mais c'est comme moi, j'adorais Benoît Bricefère ou des trucs comme ça. Bon, je ne suis pas sûr que je le lirai encore maintenant, mais on le relit.
Je pense que ça a mieux vieilli, Benoît Bricefère.
Mais on le relit toujours avec un peu de nostalgie. Toujours un petit truc. Enfin, voilà. Bon. En tout cas, voilà, une triste nouvelle, et c'est un peu triste.
La FNAC lâche Angoulême, ça aussi, c'est un peu triste.
Ouais, bah alors ça, par contre... alors, bon, on peut pas dire qu'on l'avait pas vu venir, parce que l'an dernier, la FNAC avait pas de bulles, etc. On sentait qu'ils étaient un peu sur le retrait du festival d'Angoulême. Puis là, avec tous les problèmes qu'ils ont, parce que bon, c'est PPR, hein, Printemps, PNO, La Redoute qui détient la FNAC et qui essaye de la revendre, là, de s'en débarrasser. Donc la FNAC va pas très bien, et du coup, le partenariat avec Angoulême, ils le font pas en janvier prochain, et c'est quand même une petite cagnotte que perd le festoche, hein, parce qu'on estime à peu près 250 000 euros ce qu'il donnait à Angoulême, quoi. Donc bon, c'est pas rien, comme on dit.
Alors en plus, comme le soulignait le chouette article de la Charente Libre, il y a la SNCF qui a pris un peu de recul avec le festival l'an passé.
C'est ça.
Donc eux, ils ont l'air, enfin bon, après ils vont pas dire le contraire, hein, confiants sur trouver de nouveaux financements.
Ben c'est clair, ils vont pas dire genre ah ben non, ça va pas se faire, ça va être horrible ou machin. Mais quoi qu'il arrive, ils ont pas annoncé non plus de nouveaux partenaires. Hein, et du coup,
ils ont la CCI apparemment, hein, qui redonne un coup de main aussi de son côté, un peu plus conséquent à ce que je comprends.
Ouais, bon, ils vont peut-être se débrouiller du coup avec. Mais c'est encore du public du coup, voilà. Mais bon, moi j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner en janvier, parce que c'est quand même un coup dur là, et du coup la FNAC monte son prix à côté en plus, enfin voilà.
Ça leur coûte moins cher, je pense.
Ça leur aussi. Coûte beaucoup moins cher, quoi. Et puis comme là ils savent pas très bien à mon avis où ils vont, c'est sûrement mieux pour eux, quoi. En tout cas, à voir ce que ça va donner sur le festival de janvier, quoi.
Parce que là, j'ai l'impression que tous les ans à Angoulême il y a un nouveau truc qui dit que le festival va mourir, en fait.
Ouais, mais à croire que c'est... Enfin, pendant un temps, je me demandais même si c'était pas fait exprès qu'autour d'octobre-novembre, il y ait toujours des polémiques autour d'Angoulême. Mais bon, celle-là, elle est quand même un peu pire, quoi, parce que 250 000 euros, ça compte, quoi.
Ouais, ouais, non. Et puis, c'est un festival un peu spécial, hein, même au niveau du fonctionnement, au niveau de l'organisation, au niveau du budget, en fait. Y a très peu de festivals qui fonctionnent comme celui-là.
Oui, et puis ils sont critiqués assez violemment. Hein. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de tensions au niveau politique dans le coin. Au niveau, enfin, voilà, ça fait les choux gras de la presse locale assez régulièrement, le festival, et comment ça se frite avec un peu tout le monde autour. Donc, bon, voilà. Là, c'est...
Moi, je dis que la solution pour que le festival d'Angoulême remarche au mieux, c'est de monter une ligne TGV entre Marseille et Angoulême.
Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que ce serait exactement ce qu'il faudrait faire.
Donc, il faut remettre la SNCF dedans, quoi.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Moi, je veux la ligne TGV et franchement, je pense que ça marchera vachement mieux.
Mais tu sais que quand il y avait eu des soucis là, de subvention de la ville et tout, ils avaient même pensé le faire à Bordeaux. Moi, je ne suis pas contre, hein, tu vois. C'est quand même... voilà. Ça,
oui.
Faut voir, mais moi, je trouve ça plutôt cool.
Ouais, ouais. Hein, surtout que tu viens d'emménager dans un endroit sympa juste là, quoi.
Ah, pas encore, demain. Ah, mais j'y suis.
T'y es là, pendant que les gens écoutent, t'y es.
C'est ça, là je suis dans les cartons.
News Media.
On n'en sait pas encore beaucoup, mais on commence à en parler. Troll de 3 va arriver en dessin animé, normalement d'ici 2014. Ouais. C'est une news qu'on a spotée chez BD Maniac.
Voilà, il a eux-mêmes spoté sur le Facebook d'Arleston.
C'est ce que j'ai, voilà, exactement. C'est Arleston sur sa page qui a laissé teaser cette information.
Il y aurait un nouveau
dessin animé Troll de 3. Ce serait des épisodes de 7 minutes. Hein, donc, j'imagine format un épisode, un gag, un peu comme une page de la BD.
Ouais. Bon, enfin, j'espère qu'il fera un peu plus de gags, hein, parce qu'en 7 minutes, si tu fais qu'un gag, oula, on va s'ennuyer.
Exactement. Mais en tout cas, hâte de voir ce que ça va donner, même si l'image qu'on voit chez BD Maniac donne pas vraiment envie. À voir ce que... Voilà. Bon,
mais ils ont dû changer le style graphique, parce que le style de Mourier n'était pas super facile à animer.
Ça, c'est logique.
Sauf qu'ils sont partis sur un style... qui a l'air très très simplifié et qui en plus, vu l'angle de prise de vue du dessin qu'ils ont montré, met pas vraiment en valeur le trait. Alors bon, on verra quand ce sera animé, parce que souvent sur l'animation, quand ça bouge pas, on peut pas trop se faire une idée. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur, quoi.
À voir ce que ça va donner. Moi j'ai un peu peur, mais en même temps on est qu'au tout début du projet, donc il y a pas de raison que ça se passe mal, quoi.
Une autre news, c'est le projet Kickstarter pour le film d'animation The Goon, lancé par rien moins que David Fincher à la prod.
Exactement. Alors ça, tu me l'as montré il y a pas longtemps. Je suis allé voir du coup la page du projet. Ça a l'air vraiment très très sympa, quoi.
Alors ils avaient déjà fait un petit cours pour donner une idée de ce que ça pourrait donner techniquement.
Ouais.
Ça veut pas dire que voilà, c'était des images. Ça voulait pas dire que le film était produit. Ils voulaient juste donner une idée du ton que ça allait avoir et de à quoi ils voulaient que ressemble l'animation.
Ouais, d'ailleurs, il y a la petite vidéo Vimeo là sur la page.
Ils l'ont financé sur leur propre denier.
Voilà.
Et maintenant, ils cherchent à produire quelque chose de plus sérieux. Et pour ça, ils ont besoin de faire ce qu'on appelle un story reel, c'est-à-dire une sorte de storyboard animé, très sommairement, hein, avec les voix, pour montrer le rythme, le ton et ce que va donner le film final.
Mais pour ça, ils ont besoin de $400,000 quand même. Hein.
Voilà, $400,000, c'est pas rien.
C'est pas rien. Oh, ils en ont déjà 183 000 là. Là ouais,
il reste 15 jours.
Mais ouais, il reste que 15 jours, donc bon... Mais il y a déjà quasiment 3000 personnes qui ont donné, quoi. Enfin, en tout cas, allez voir sur la page du projet, ça a l'air vraiment sympa. Et
ouais, le si projet est vraiment joli.
Si vous avez un peu de sous, allez-y, quoi.
Voilà. On peut même donner $10,000, il y a quelqu'un qui l'a fait.
C'est ça, voilà, on peut donner $10,000. Alors pour tous les gens très riches qui nous écoutent, ne vous gênez pas.
Voilà, avec des t-shirts inédits. J'aime beaucoup vaguement le design du t-shirt, mais bon, c'est très esprit The Goon.
Exactement.
The Goon Kickstarter, très drôle. On peut choper des posters, des trucs signés, une statue en bronze où il t'explique en faux bronze, pardon, qui en plus peut te servir à éclater un zombie s'il est à ta porte.
Au cas où, hein, on sait jamais. En cas d'attaque zombie, toujours être préparé.
Voilà. Donc franchement, moi je trouve le projet super parce que Eric Powell est vachement impliqué dedans. On a un réalisateur quand même qui n'est pas de la mignonnette.
C'est David Fincher, quoi.
Voilà.
Puis même les acteurs.
Oui, Clancy Brown, qui joue The Goon, il avait fait le Kurgan dans Highlander, si vous vous souvenez. Ouais. Et il jouait un très très beau rôle dans la série La Caravane de l'Étrange. Et Paul Giamatti pour jouer Frankie. Donc des acteurs quand même... Pas n'importe qui. Enfin, moi, je trouve que c'est un beau projet. Ça vaut le coup de le soutenir. Et j'espère qu'on arrivera à voir le film un de ces quatre.
Exactement. Ben, on croise les doigts.
Eh bien, merci pour la seconde fois.
Mais y a pas de souci.
C'était un plaisir de re-enregistrer ces news. je pense que ça sera un peu les news maudites. Ça sera un peu le titre de l'émission pour fêter ça.
Très bien.
Je te dis au mois prochain.
Exactement.
Ouh, on va avoir plein de news. Là, on va approcher de janvier. Ça va être...
Là, ça va commencer. Hein. Angoulême, ça part et tout. Enfin, là, c'est cool.
Très, très bien. Bon. Allez, à bientôt. Ciao.
À bientôt, tout le monde. Ciao, ciao.
Dans les bacs. Billy Bat, numéro 4. Chez Pika Édition. Donc, le quatrième tome de Billy Bat, une série fort intrigante de Naoki Urasawa qui nous a un petit peu... Enfin, sur le tome 3, on était un peu du... Merde, qu'est-ce qu'il nous raconte ?
On avait parlé avec... Alexis, cherche le prénom.
Voilà. Dans notre hors-sujet.
Ouais, c'était déjà un gros, gros sujet quand même.
Bon, en gros, ça nous raconte l'histoire de Kevin Yamagata, un auteur de manga, de comics, qui travaille aux États-Unis, dans les années 50. Donc c'est un métis, hein, d'origine à moitié japonaise, qui travaille sur un personnage qui s'appelle Billy Bat, qui est une sorte de chauve-souris un peu à la Bogart, enquêteur, etc.
Avec un peu une tête de Félix le chat quand même.
Et puis quelqu'un commence à arriver, lui dit « Ah tiens, j'ai déjà vu ce personnage-là dans une BD japonaise, quand j'étais... » Et lui il dit « Merde, j'aurais peut-être copié sans faire exprès. » Et donc il décide de partir au Japon pour mener l'enquête.
Oui, parce que lui aussi a été au Japon pendant la guerre.
Les deux premiers tomes, il mène son enquête, et le troisième tome, il y a des ninjas.
Ben, voilà, normal. Ok, c'est bien résumé, non ?
Donc, en gros, on a l'impression qu'il y a une sorte d'esprit de Billy Bat qui va posséder des auteurs et qui va leur faire écrire des BD prémonitoires. Mm-hmm. Cet esprit de Billy Bat existe depuis très longtemps, vu que il était déjà présent au Moyen Âge au Japon avec des ninjas et compagnie. Mm-hmm. Sur le tome 4, on retrouve notre intrigue principale, c'est-à-dire qu'on va retrouver Kevin Yamagata, mais quelques années après. C'est-à-dire que tout commence dans un parc, c'est Billy Land, c'est le parc autour de Billy Bat. Billy Bat est fortement inspiré de Mickey Mouse, dans l'idée, c'est vraiment un archétype qui s'en rapproche. Il a un petit... Mickey Mouse qui avait aussi inspiré Astro le petit robot, au niveau du design. Et apparemment, on apprend qu'il y a un gentil Billy Bat et un méchant Billy Bat. Ils sont deux, mais ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on n'arrive pas à faire la différence. Et ils vont posséder les artistes, et il y en a un qui va faire le bien, qui va faire le mal. Et on va suivre un certain Lee Harvey, qui travaille à Billy Land.
Oswald.
Oui, Lee Harvey Oswald.
Tu connais beaucoup d'autres Lee Harvey dans ta vie, toi ?
Non, mais c'est parce qu'en fait, Kevin Yamagata l'appelle Oswald, parce qu'il ne sait pas qu'il s'appelle Lee Harvey.
Et on commence à avoir donc une enquête là-dessus, parce que lui aussi serait manipulé, possédé par une sorte de groupuscule qui veut le forcer à faire des actions. Et on se rend compte qu'il y a un complot. Et Lee Harvey, on n'arrive pas trop à savoir si finalement ce serait lui qui aurait tué Kennedy ou pas.
Non, mais à un moment donné, je m'insurge. Pourquoi faut-il, à chaque fois que l'on parle d'un certain Lee Harvey, que le mot complot apparaisse systématiquement ? Ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter.
Non, mais là, il n'y a pas de complot, en fait. Les mecs, ils se sont juste roulés dans la farine.
Surtout que le truc super rigolo, c'est que
il bosse pour KFC.
C'est Kevin Yamagata qui a fait l'histoire, qui est en train de dessiner une histoire.
Parce qu'en fait, voilà, justement, le Billy Bat parle à Kevin Yamagata et lui fait écrire l'histoire d'un certain Oswald, qui en fait est un lapin.
Et qui Oswald se fait, le lapin.
Voilà, qui se fait à rouler tout le temps, qui se monte de plus en plus.
Alors, Oswald le lapin, pour ceux qui n'auront pas capté le clin d'œil, Oswald le lapin, c'est un des premiers personnages de Walt Disney. Qui lui appartenait pas en fait. Disney a racheté les droits d'Oswald le Lapin. D'ailleurs, il est présent dans les jeux Epic Mickey. Et donc, c'est un des premiers personnages. Et en plus, là, il est dessiné pas fini dans les dessins. Parce qu'il n'arrive pas à le fixer. Il n'arrive pas à trouver comment fixer son trait. Et on continue à suivre cette enquête. Et c'est très intriguant. Vraiment.
Bah, tiens, le mélange vraiment là du réel, de l'historique, hein, et du dessin qui. Voilà, tu sais plus bien qu'est-ce qui est vrai, du coup, surtout quel complot est en train de se tramer en dessous, quoi.
Puis on n'arrive pas à savoir si c'est le personnage qui pète un câble et qui imagine ce Billy Bat derrière, ou s'il y a vraiment ce côté fantastique qui est présent.
Je pense que le franchissement du fantastique, c'est déjà fait par rapport à Maître Chou, je crois, qui avait oui. déjà dessiné Billy Bat au Japon.
Oui.
Et le fameux accident de train.
De train derrière. Et en parallèle, donc, il y a un gars qui est en train d'enquêter sur cette histoire de Billy Bat, sur Kevin Yamagata, qui s'est exilé, qui s'est planqué, parce qu'il est en train de devenir fou et qu'il veut se mettre à l'écart, parce qu'il se sent possédé par ses dessins et qu'il veut y échapper. C'est du polar psychédélique au niveau du genre, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour le définir. Moi, au niveau du scénario, j'ai mis que c'était inspiré, dans le sens où ça va chercher vraiment plein d'idées dans tous les sens, et ça les mélange. C'est à la limite de l'indigeste, dans le sens où c'est très bien écrit, mais on sent qu'il ne faudrait pas grand-chose de plus pour qu'il mélange trop de choses.
Moi, j'ai même trouvé que c'était un peu... Enfin, moi, c'est une parodie géniale. C'est en même temps, dans le... Dans l'humour, on va dire, du Billy Bat, mais bon, c'est génialement mené, je trouve, au niveau du scénario, quoi. Tu as les deux intrigues qui sont en train de se croiser, de se recroiser, ça se construit petit à petit, ça s'imbrique. Ouais, enfin, c'est Urasawa, quoi.
C'est très très bien. Maintenant, le problème, c'est qu'on sait toujours pas où il veut aller.
C'est pas grave.
Au niveau du dessin, moi j'ai mis qu'il y avait un côté changeant. Parce qu'il sait s'adapter à plein de styles différents. Il va dessiner des... On a des BD de Billy Bat qui sont présentes dedans, donc où il prend un style beaucoup plus simple, très américain en fait. Il y a des clins d'œil à Dick Tracy. Donc il va vraiment chercher dans plein de genres différents, avec son style à lui réaliste manga derrière. Mais il sait vraiment mélanger tous ces styles-là et ça tient la route.
Ben, moi, je trouve que ça envoyait pas mal quand même. C'est dans tous les mélanges de... Alors, sans parler des passages de Billy Bat où justement donc il fait du Bogart quoi, hein. Mais tous les passages où il dessine le réaliste, c'est un bon polar quoi, c'est bien mené. Moi j'ai l'impression que tu te retrouves vraiment dans l'image que j'ai moi de l'Amérique des années 50 quoi, 50-60.
J'espère qu'on aura quand même quelques pistes prochainement qui vont nous donner un peu du grain à moudre, parce que c'est vrai qu'on est encore quand même pas mal dans le vide, dans le vague, quoi.
Ouais, en même temps, enfin, rappelle-toi que sur cette autre série aussi, t'es dans le vague pendant plus de 4 tomes.
Ouais, quoi. Mais les personnages ont un objectif clair. Ils savent où ils cherchent quelque chose.
20th Century Boys.
20th Century Boys, ils essayent d'arrêter Amy. On a l'objectif.
Ouais, sauf qu'on sait toujours pas qui c'est, quoi.
Alors, c'est pas qui c'est, oui.
Ils savent qu'ils le connaissent.
Mais on a des personnages qui savent ce qui, enfin, qui essayent de faire des choses et qui savent ce qu'ils cherchent. Là, il sait rien, quoi. Il est complètement largué, le mec.
On est qu'au tome 4, attends le tome 14.
Il est pas encore sorti au Japon, le tome 14. Je crois qu'ils en sont au 9 ou au 10.
Non, c'est que je suis optimiste. Enfin, on commence un peu à le connaître, quoi. À chaque fois, ça dure, hein.
Ouais, j'espère qu'il fera pas trop traîner non plus. En tout cas, moi, je suis.
Bon, vous l'aurez compris, Thio est un tout petit peu à fond sur Naoki Urasawa. Et où qu'il l'emmène, ouais, le voyage en vaut la peine, visiblement.
Ouais, je suis pas le seul, parce que lui aussi, mais là, il a fait un petit peu sa mijaurée, histoire de dire non, mais moi, je suis pas trop à fond.
Il faut aussi avoir des arguments un peu. Faut un peu, quand même, un peu se calmer de temps en temps. On n'est pas obligé d'être à donf tout le temps. Voilà. Par exemple, je cherche les qualités dans les choses pas top et je cherche les défauts dans les choses trop bien. Il faut savoir.
Ouais. Bon, apparemment, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Billy Bat, allez-y.
Bah ouais, non, il y a beaucoup de gens qui justement trouvent que on se fait trop balader par l'auteur et que on sait pas trop où on va et c'est dommage.
L'important c'est la balade. Hein.
Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un bon tome.
On pourra citer Andreas à la fin de l'émission, justement sur l'écriture des bandes dessinées. Je trouve ça excellent.
Oui, ce qu'il dit.
Pourquoi est-ce qu'il l'écrit ?
On verra, on y reviendra. L'attentat de Dauvilliers et Chaperon, d'après le roman de Yasmina Kadra aux éditions Glénat. Alors, je te laisse... vas-y, raconte-nous le pitch, Isaac.
Alors, tout d'abord, petit retour sur Yasmina Kadra, qui a sorti ce roman-là, qui a fait un gros carton, d'où l'adaptation en bande dessinée, je pense, ça ne doit pas sortir de nulle part. Le pitch, c'est on suit un personnage, dont j'ai bien évidemment oublié le nom, sinon ce n'est pas drôle, qui est d'origine arabe et qui vit... de l'autre côté, donc en Israël, qui est médecin dans un hôpital. Et donc, un attentat survient, sa femme est accusée de l'attentat suicide, donc sa femme est morte, et lui doit donc gérer en parallèle le décès de sa femme et les accusations qui sont portées partiellement contre lui au départ pour le bien de l'enquête, et ensuite directement contre sa femme qui est accusée d'être auteur de cet attentat suicide.
Alors que pour lui, sa femme, c'est pas possible.
Exactement.
C'est...
Alors que lui pensait vivre une histoire d'amour parfaite, toujours aussi parfaite, où tout allait bien.
Il n'y avait pas de secret.
Exactement. Et donc. Il tombe un petit peu dénu devant les accusations qui sont proférées contre sa femme, et donc il va mener son enquête parallèle pour infiltrer le milieu islamiste et savoir qui précisément, nommément et pas simplement savoir si c'est telle organisation ou pas telle organisation, il va chercher les personnes très concrètes qui l'ont mise dans cette situation de bombe humaine.
Déjà, au départ, il veut chercher aussi, il veut être sûr que sa femme soit coupable, parce qu'il n'y croit pas du tout. Et puis, quand il est mis face aux faits, il veut savoir pourquoi.
C'est ça. On ne sait pas trop s'il est convaincu complètement de la culpabilité de sa femme, et c'est aussi l'un de ses moteurs lors de l'enquête, lors de sa recherche. C'est très prenant, c'est très poignant. Le personnage est très bien décrit dans sa déchéance tout au long de l'enquête, parce qu'il il en souffre physiquement. Il ne s'alimente plus, il ne dort plus.
Il est en deuil. Hein.
C'est ça. Il subit le deuil et en même temps, il faut qu'il gratte la plaie au plus profond de lui-même pour arriver à trouver des réponses.
Et puis se lancer dans des aventures. On dirait limite suicidaire, quoi. Il veut savoir, il se met en danger en essayant d'infiltrer des groupes hyper dangereux.
C'est ça. Donc, et il se fait en plus de notre côté, il n'a même pas de point d'attache, puisque les seules attaches qu'il avait étaient du côté juif. Et devant la situation de mari d'une bombe humaine, il se fait complètement lyncher du côté juif où il habitait, où il avait sa vie, où il avait ses amis, etc. Bref, sa vie est totalement détruite. Il n'a plus vraiment de point d'attache. Là aussi, ça favorise, je pense aussi, son départ vers l'au-delà. Voilà, il a quelques collègues qui le soutiennent
dans sa quête. Hein.
Mais voilà, on sent malgré tout un homme seul dans sa quête et qui se fissure un petit peu de toutes parts.
Pour le genre, on a mis docu-fiction, parce qu'il y a un côté documentaire, ça pourrait être vrai, en fait. Il y a ce côté-là. On se dit que ça pourrait être vrai, même si on reste dans de la fiction. C'est assez effrayant, d'ailleurs, ce côté-là. Au niveau du scénario, moi, j'ai mis détresse. On ressent vachement bien la détresse du personnage.
Moi, j'ai mis douloureux.
On est vraiment touché par ça. Thio ?
Alors moi, j'avais fait plutôt une référence cinématographique sur le scénario. Ça me faisait penser au Royaume. Un film qui, je crois, date de 2006 de Jamie Foxx Jennifer Garner, je crois. Mais ce n'est pas que pour Jennifer Garner, mais ça rappelle aussi l'histoire d'un attentat, et c'est prenant d'une part de réalisme, et c'est vrai que voilà, comme disait Isaac, on suit la chute de ce gars autant physiquement que mentalement, mais c'est ouais, douloureux. Voilà, je reprends vos deux mots là, du coup, mais c'est ça, c'est vraiment douloureux, ça prend les tripes, quoi.
Nous, en tant que lecteur, on baigne du coup dans cette douleur de ce personnage, et pourtant on est comme lui, on a quand même envie de continuer à lire la suite et à voir le fin mot de l'histoire.
Encore une BD recommandée par la BDRI, d'ailleurs.
Bien vendu. Là, ouais, on vendu. Sent les commerciaux quand même.
Ouais, quand il nous l'a vendu, franchement, il me dit, ouais, je cherche un truc là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Il m'en a parlé, j'ai fait, ouais, ok, c'est bon. Il m'a fait un peu éclater mon budget, ce salaud. Sale vendeur.
Aux éditions Glénat pour la modique somme de.
De cher.
Code prix GL70.
Voilà. Au niveau du dessin, moi j'ai mis que c'était racé. Il y a un côté très. Assez brut dans le dessin, mais très très. Comment dire, il y a un côté dynamique, les traits sont posés, on sent que c'est toujours sur le point d'exploser, en fait, au niveau du dessin. Il y a une forme de travail sur le rythme, les personnages sont toujours au bord de l'explosion. Et j'ai trouvé ça vraiment bien rendu et ça colle super bien au scénario.
moi j'ai marqué à l'essentiel parce que on n'est pas dans le détail du fond, du décor, du machin, du bidule, parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant. Le scénario a besoin de se fixer sur l'état psychologique du personnage, son état physique, le regard que les autres vont porter, etc. Et voilà, le dessin se concentre sur les éléments essentiels du scénario et donc vient renforcer l'histoire.
Alors j'avais pas donné de mot, hein, voilà, je l'ai pas trouvé. Y a plein de petits points, mais j'ai pas réussi à mettre un mot dessus. Mais je me rapprocherai plutôt de ce que dit Isaac. Pour moi, le dessin est pas vraiment, c'est pas vraiment ce qui m'a marqué. Les couleurs sont jolies, il faut vraiment penser au pays du Moyen-Orient, quoi. Mais l'essentiel, je trouve, de l'histoire est vraiment dans le scénario.
Moi, j'ai vraiment trouvé ce côté, tu vois, prêt à exploser. C'est-à-dire qu'on a les cases qui sont assez petites. Il y a beaucoup de petites cases avec des plans assez serrés sur les personnages qui montrent beaucoup les visages, les expressions. Et puis, de temps en temps, ça éclate. Il y a des éclats de violence où les cases explosent. D'ailleurs, littéralement, hein, il n'y a plus de cases. À un moment, il se fait fracasser la tête. La scène est super bien menée, quoi. Il y a un dynamisme terrible là-dedans. Il se fait exploser. Il n'y a plus de cadre, plus de... Et ça passe super bien.
Moi, ça m'a pas marqué.
Voilà. Ok.
Bref, à recommander. Oui. De la même façon qu'on nous l'a recommandé.
Damien. Par Tom et Jazz. Édition Bac à BD.
Et je laisserai Thio faire le pitch.
Merci. Alors, donc Damien. Alors, on va commencer donc déjà juste par une superbe couverture. Qui nous montre donc déjà juste la cipo, voilà, du nom Damien avec le i qui est un couteau de cuisine bien pointu, bien coupant sans doute, et avec un petit gamin donc qui est en train donc de désosser un de ces 50 000 oursons qui ont tous été avec un œil crevé, un arbre, enfin un ombre arraché, enfin une sorte de gentil exterminateur quoi, d'environ 7-8 ans je dirais. Et donc on va suivre Damien sur des plein de petits strips où Damien va faire toutes les horreurs possibles de l'enfance, non déjà je suis dans le jugement là, donc va faire donc toutes les petites horreurs de l'enfance, va faire subir à son gentil voisin plein d'immondices.
Igor,
ouais. Et du coup, c'est assez.
Il martyrise les animaux,
il martyrise les peluches.
Il y a quelques dessins clin d'œil, il y a des grands classiques.
Il y a beaucoup de petits dessins.
De l'horreur, du jeu vidéo, du
Frankenstein.
Voilà.
Jason. Et donc les parents qui aussi participent parfois à ces activités.
Bien malgré eux.
Si tu m'enlevais les mots de la bouche.
Ouais. Pas. Je pense, voilà, pour le pitch de départ, c'est ça.
Le genre, c'est du monde noir. Hein, c'est...
Ouais, café crème, quoi.
Café crème, allez, va au fond des choses.
Bon, le scénario. Le scénario, j'ai trouvé ça le mélange entre malsain et pas drôle.
Mal drôle.
Ouais, non, j'ai pas voulu manger. C'est pas le.
Pas le sain.
Ouais. Non, c'est quoi? C'était laxatif et récréatif, non?
Ouais, éducatif.
Éducatif, voilà. Ouais. Non, mais non.
C'est pas éducatif.
C'est pas. Je fais pas faire un mélange entre malsain et pas drôle. Malsain parce qu'il y a des blagues que j'ai trouvées gratuites et qui m'ont pas fait rire. Certaines ont été drôles. Voilà.
Le coup de la loupe sur le chat, moi je trouve ça très drôle.
Oui, alors c'est peut-être, voilà, si tu veux, il y a celle aussi où il fait avec un poulet, il met des petites graines jusqu'à l'amener à l'échafaud. Bon, ça j'ai trouvé ça, ouais, ça me fait sourire. Mais j'ai pas trouvé ça drôle.
En fait, voilà, moi j'ai eu du mal avec cette BD à voir quelle était la cible. C'est-à-dire qu'on est dans un humour très basique pour enfants. Mais c'est tellement trash. Enfin, moi, pour le scénario, j'ai noté strip dextérien. Parce qu'on est vraiment dans un mini Dexter.
Oui.
C'est un gamin de 8 ans qui est un total psychopathe. Et du coup, je vois pas bien quelle est la cible.
Je pense pas que ce soit les enfants. Enfin, en tout
ça
cas,
ne peut pas être les enfants. Je me vois mal offrir ça à un petit neveu qui a 8-10 ans. Et
ado, moi je dirais. C'est une bonne cible ado.
Ouais, mais je pense que les abdos ou les jeunes adultes sont dépassés par au-delà de ça quoi. Enfin, on n'a pas besoin d'un humour comme celui-là, je trouve. Alors, voilà, moi je l'ai lu, il y a quelques trucs qui m'ont fait rigoler au passage, mais enfin sourire plus que rigoler. Mais après c'est très répétitif. C'est un peu tout le temps la même chose. C'est les mille et une façons de démolir un ourson et son voisin.
Pour le scénario, j'ai mis prévisible parce qu'on arrive facilement à deviner les chutes. Mais c'est peut-être aussi le problème de ces recueils de strips. J'avais déjà fait le...
Non, non, parce que tu prends... moi, je suis désolé, mais les premiers Kid Paddle, tu vois, quand tu me l'as montré, c'est ce que je t'ai dit. Je fais, ah tiens, c'est le Kid Paddle qui détruit ses jouets, tu vois. Mais bah, Kid Paddle, moi, j'en ai quand même lu pas mal et je me suis à chaque fois régalé, quoi.
Oui, mais Kid Paddle, c'est du gag en une planche, tu vois. Le strip, c'est vraiment un exercice vachement plus difficile. Mmh. Et moi, je trouve qu'un album de strip moyen, je veux pas dire... Même pas mauvais, je dis un album de strip moyen, vu qu'en général t'as un thème bien précis, etc. Bah, tu vas vite avoir une overdose, quoi. Tandis que si tu en as un de temps en temps, que tu vas lire comme ça, tu vas faire un petit sourire, tu vas trouver ça sympa sans plus, etc. Mais là, c'est vrai que d'un coup, cet album complet, ça fait un peu overdose. Quoi.
C'est ça. Je trouve qu'un strip par-ci par-là, dans un recueil d'autres choses. Ça pourrait tout à fait fonctionner.
Calvin et Hobbes, au départ, c'est bien des strips aussi.
Ouais, mais.
Mais oui, mais enfin voilà, c'est parce que là, tu.
Il y a eu une prépublication de Calvin et Hobbes.
Oui,
mais sauf
que dans ce cas-là, tu notes. Oui,
mais enfin, tu les as. Mais c'est aussi. Tu les as jamais lus. C'est un génie, Calvin et Hobbes.
Ben, merci. Voilà. Bon, mais je pense qu'on peut arrêter le débat là-dessus.
Voilà, mais.
Alors, le mec qui a fait Calvin et Hobbes, c'est un génie. Il y a des choses qui sont très sympas aussi. Hein. Bon, après, ils l'ont repris le principe des. On fait un petit titre pour chaque strip. Et du coup, effectivement, sur le côté prévisible, on a une fâcheuse tendance, quand on lit le titre, à vite avoir compris un seul clin d'œil où il va en venir. Après, il y a des petites choses sympas. Et effectivement, on va dire qu'une page sur trois. Il fait une bande complète sur une illustration avec donc un petit clin d'œil. Un coup c'est Indiana Jones, un coup c'est un Frankenstein.
Il finit sur une histoire,
un Star Wars, et c'est très très sympa. Et effectivement, il finit sur une histoire un tout petit peu plus longue qui conclut donc l'ensemble. Et où effectivement, c'est pas si mal. C'est un tout petit peu plus construit. Donc. Pour en revenir à ce que tu disais, Pierre, l'exercice du strip est très compliqué. Sur ce format-là, ça en devient très répétitif. Mais en soi, il peut y avoir quelque chose de sympathique à creuser. Mais en changeant quelque chose, en changeant le format...
Le dessin.
Il est marqué numérique dessiné. C'est pas une bande dessinée, c'est pas un dessin animé. Voilà, les couleurs sont comme on pourrait le trouver au jour d'aujourd'hui dans un dessin animé moderne, et c'est mis en version numérique imprimée, bien jolie, ça fait un peu jeu vidéo, quoi.
Moi j'ai mis efficace, voilà, sans plus.
Moi j'ai mis profil unique, j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi ça m'a marqué, que ce personnage-là n'a qu'un profil. Il est toujours montré du même profil. D'ailleurs, tous les personnages sont montrés toujours du même profil. On les voit peu...
Non, si, regarde. Des fois, c'est le gauche, des fois, c'est le droit.
C'est un trois quarts gauche ou un trois quarts droite.
Ouais, donc, et je trouve que ça rend un truc un petit peu plat. Et je trouve que les décors, bah, en fait, qui utilisent un style graphique différent du dessin, choquent un peu. Moi, ça m'a pas...
Oui, oui. Merci. C'est...
Le suicide des Playmobil est drôle.
C'est en ça que...
Le suicide des Playmobil
est drôle. C'est en ça que je te dis que ça ressemble un peu à un dessin animé moderne, c'est-à-dire qu'un très joli paysage fait avec tous les moyens numériques actuels, et puis on fait du dessin rapido qu'on anime par-dessus. Quoi.
Ouais. Bon, bah, un dixième des gags nous ont fait sourire, c'est déjà pas mal. Soyons positifs.
Ok, un dixième des gags nous a fait rire, c'est bien.
Sourire.
Ouais.
Ouais, je veux pas être aussi tranchant que Thio. Je pense qu'il y a des choses à retenir là-dedans, mais le format strip, voilà, ça en devient lassant sur la longueur.
Un printemps à Tchernobyl.
Attention, ceci est une sélection Télérama.
Je sais pas si c'est écrit, mais non, ça pourrait.
Mais ça pourrait.
De Emmanuel Lepage chez Futuropolis.
Pour la modique somme de
24,50€.
Bien placé, je vous le dis tout de suite.
Un printemps à Tchernobyl, c'est l'histoire d'Emmanuel Lepage, qui est donc un artiste de bande dessinée, qui avait déjà fait un autre album dont j'ai oublié le titre, mais qui a eu un très 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 gros succès, Voyage au bout...
Voyage aux îles de la désolation.
Voilà, Voyage aux îles de la désolation, toujours chez Futuro, qui a eu un très gros succès, parce que il a une façon de dessiner, ses couleurs sont en général sublimes, son travail est génial. Et il nous raconte... sa vie et son voyage où il accepte de partir à Tchernobyl pour une association pour faire des dessins pour témoigner de l'horreur du nucléaire. Et pour, en gros, il travaille pour une association militante anti-nucléaire. Sauf que lui, il se sent pas plus anti-nucléaire que ça. Il se dit que c'est une aventure à vivre qu'il faut faire. Alors bien sûr, sa famille s'inquiète quand même beaucoup parce que le monsieur est marié et papa.
Deux enfants.
Voilà, je sais pas. Ouais, moi, je fais waouh, faut le vouloir quoi. Et il y va. Et on va suivre un peu son parcours, son chemin pour le suivre. Les gens qu'il rencontre, comment ça se passe à Tchernobyl. On voit un peu toutes les règles de sécurité à suivre, le danger qui est omniprésent, genre faut pas marcher sur les flaques, faut faire attention aux moindres détails.
On ne marche qu'au milieu de la route et pas sur les bords, parce que la radioactivité est 10 fois supérieure sur les bords de la route plutôt qu'au centre.
On doit faire des zigzags, il est un petit peu... voilà. Et au bout d'un moment, il se retrouve confronté à un énorme problème en tant qu'illustrateur, c'est que sa mission, c'est de montrer l'horreur de Tchernobyl, et que lui, tout ce qu'il voit là-bas, c'est que c'est beau. Il voit la beauté. Il voit une beauté qu'il n'arrive pas à représenter, qu'il représente de façon assez surréaliste en faisant des arbres bleus qui sont superbes. Et d'ailleurs, on va tout de suite parler du dessin parce que c'est assez fort là-dessus. Lui, il est embêté. Il recherche. Il est en vraie recherche de savoir comment remplir sa mission. Il ne trouve pas. Et tout l'album est dans une sorte de noir et blanc avec quelques pointes de couleur pour montrer le danger sur les panneaux, quelques détails là-dessus, quelques légères touches de couleur très très bien intégrées. Et puis de temps en temps, il y a une fulgurance de couleurs. Moi j'ai mis éclat, c'est le mot que j'ai mis pour le dessin. T'as un éclat qui te retrouve sur des pleines pages où tu fais waouh, la couverture est vraiment donne un aperçu de ce qu'on va voir dedans. Magnifique.
Moi pour le dessin, j'ai marqué une immersion embellissante parce qu'effectivement, on est un petit peu comme. Comme le dessinateur, c'est-à-dire qu'on s'attend à voir des choses noires, 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 grises, grises et noires. On est sur une centrale nucléaire qui a implosé. On est sur
des ruines.
On est sur de l'Union soviétique. Bref, on s'attend à tout sauf à de la beauté.
Et la beauté, c'est la nature qui a pris
ça. Comme lui, il arrive à nous plonger en même temps que lui. Donc, on vit cette immersion en même temps que lui. Et de la même façon que lui, on se retrouve piégé par la beauté des lieux. On se retrouve vraiment... est-ce que c'est vraiment irradié ? Comme lui, on marche un peu sur des œufs, on est dans un paysage superbe, mais surtout, on ne peut pas s'asseoir par terre, on ne peut pas toucher l'herbe, on ne peut pas toucher les arbres, on ne peut pas toucher le sol.
Il fait tomber un fusain à un moment.
Il fait tomber une craie grasse ou un fusain, je ne sais plus. Il ne peut pas le ramasser parce que...
Parce qu'elle a touché le sol.
Ah ouais, c'est vrai. Quand même.
Voilà, et du coup, c'est...
C'était son stylo
fétiche. Il hésite.
On est comme lui, au milieu de paysages absolument magnifiques, alors qu'on s'attend absolument au contraire. Mais en même temps, le danger rôde, le danger est omniprésent, le danger est invisible. Contrairement à une blessure claire, nette et précise, comme ils le disent, quand on est reporter de guerre, on se prend une balle, Une fois qu'on est revenu à la maison, on sait qu'on est revenu à la maison et qu'on en est revenu vivant. Là, avec la radioactivité, on ne sait pas à quel moment on se met en danger. On ne sait pas, une fois qu'on est rentré à la maison, si on s'est mis en danger et si on va se détruire dans l'intérieur à petit feu ou à feu rapide.
Puis il y a les gens aussi.
Après, il y a les rencontres humaines. Voilà. Ça va au-delà de simplement des paysages. Il y a des rencontres humaines qui sont très très bien retranscrites, je trouve.
Quand il nous parle des... Comment ils s'appelaient ? J'ai oublié le nom des mecs qui...
Les liquidateurs.
Les liquidateurs. Et quand il nous parle des liquidateurs, je dis, mais ces mecs-là, c'est ils sont magiques, quoi. Ils ont sauvé l'Europe.
C'est exactement ça. On est un petit peu comme avec ce qui se passait à Fukushima, où il y a eu des gens qui se sont clairement sacrifiés. Et là, on a un petit peu revanté de nouveau la culture japonaise, la culture asiatique, le sens du sacrifice, le sens du devoir, etc. Mais il faut pas oublier que voilà qu'en 86, il y a des gens russes qu'on a décriés pour lesquels l'Amérique fustigée en long, large, en travers, et qui ont fait la même chose pour l'Europe, quoi, pour toute la population européenne, voire la population mondiale.
Et il y a un autre truc, tu parlais de beauté, c'est l'architecture. Parce que la ville où ils se trouvent, c'est Pripyat. En fait, ils expliquent que c'était une ville moderne de l'ère communiste.
Et modèle même.
Modèle. Et qui a une architecture, mais c'est superbe. Tu te dis, c'est un endroit, il doit faire bon vivre. En regardant les ruines, tu t'imagines l'endroit.
C'était la ville top moderne, top élitiste. Toutes les infrastructures étaient en place, tout était bien pensé. Il y avait une joie de vivre qui était là. Tout le monde était heureux. Tout le monde avait du boulot, tout le monde avait un bon boulot. Et puis boum.
Sur le scénario, moi j'ai mis quête d'essence comme mot. En gros, il est vraiment dans cette quête. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Il y a d'autres éléments, c'est très riche hein, comme scénario. Oui. Mais moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est cet artiste qui est en train de chercher comment faire les choses. En plus, il explique qu'il avait des problèmes de santé, ce qui fait qu'il n'était pas sûr de pouvoir dessiner, parce qu'il avait mal à la main.
Il voulait se faire remplacer. Quelques mois avant, en fait, on ne sait pas si c'est psychosomatique ou parfaitement réel, mais toujours est-il qu'il avait, il a été incapable pendant plusieurs mois de dessiner tellement il avait des douleurs à la main.
Et quand il te le raconte, tu sens que ce mec-là... Pardon, je viens de voir l'alerte muette.
J'ai pensé à arrêter les enceintes.
Bravo, mais bon, vous l'aurez eu quand même. J'ai merdé.
Bon, on revient au printemps à Tchernobyl. Ça le vaut. On disait quoi ? Oui, il a une introspection. Il est en recherche sur lui-même par rapport à ce voyage. Il a une quête tellement forte, ses peurs étaient tellement fortes qu'il en vient à somatiser d'une certaine façon cette douleur à la main, ou pas, elle était peut-être médicalement avérée. Toujours est-il qu'une fois sur place, il arrive tout de même à dessiner, et la douleur disparaît petit à petit.
Il a pensé à changer de technique aussi.
Voilà, il a pensé à apporter du matériel qui était moins invasif et qui lui permettait d'avoir un trait plus léger et pas avoir besoin de forcer sur la main. Toujours est-il que, vu le stress qu'il a, notamment au début, il est tellement tendu qu'il a du mal lui-même à dessiner, et c'est pas lié à la douleur pour le coup, il le dit après.
J'ai aussi trouvé très bien l'introduction qui nous parle de son point de vue de quand il était jeune, quand il a vu à l'actualité en fait. Hein,
il avait 19 ans quand il a vu
l'accident, bah, comme on a pu le voir par les médias, nous on était peut-être plus jeunes.
Oui, t'en rappelles quand même.
Oui, je m'en rappelle, ouais, mais bon, ça reste diffus quoi. Tu comprends pas trop ce que tu vois.
C'était pas Yves Mourouzi d'ailleurs.
Non, moi je m'en rappelle de la 2. La même, parce que d'ailleurs, pareil, en fait, il prend du temps au début pour présenter le projet en France quand ça lui a été, quand ça lui a été proposé, les questions qui se sont posées au départ, etc., l'organisation au départ, et les souvenirs d'enfance, comme tu disais, Pied, qui lui sont remontés, et notamment les images qu'on a plus ou moins tous en mémoire, le journal télévisé,
les
nuages qui s'arrêtaient à la frontière, le spécialiste de machin qui nous montre des cartes météo avec des grandes flèches dans tous les sens pour nous dire non mais le nuage là, tu vois, il y a le coup de vent qui a fait que...
Non, voilà. Ça tu vois, ça c'est après, tu vois.
Ah ben, moi j'ai les mêmes souvenirs.
Vraiment le seul souvenir moi, que j'ai vraiment de l'époque, c'est les photos de la centrale éventrée, quoi.
Les photos
de la centrale éventrée et quand ils évacuent... quand ils font évacuer les gens, les hélicoptères qui tournent et les pompiers. Voilà, c'est les seules images que j'ai. Et ouais, maintenant, si tu veux, quand ils remontent des reportages, tu vois justement tout le montage, tout le pataquès qu'il y a eu autour. Quoi. Mais les images, c'est vraiment moi, celles qui sont restées dessus.
Quoi qu'il en soit, un carnet de reportage, parce qu'on est vraiment dans son carnet, c'était le genre.
J'ai marqué reportage intérieur parce qu'on est à la fois sur ce qu'il voit, mais à la fois sur ce qu'il vit. C'est très prenant, c'est un joli témoignage, un joli questionnement. Aucun jugement qui est porté à aucun moment, si ce n'est sur lui-même et sur les préjugés qu'il pouvait avoir au départ. Magnifique.
C'est moi, par contre, voilà. Donc du coup, je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en parler. Mais ça donne déjà très envie quand vous en racontez un petit peu tout ça. Mais par contre, du coup, moi, c'est la couve qui du coup m'amène avec un du coup pour une quatrième fois. Allez, hop, ça, je l'ai fait.
Du coup.
Il fait quoi ? Il fait du camping ou il te donne envie d'y rester ou...
Il te donne pas envie d'y rester, mais il te dit que c'est une expérience qui l'a profondément secoué, qui lui a fait se poser beaucoup de questions sur son rôle, sa place.
Là, tu le vois avec donc ces trucs de dessin, avec un fauteuil pliant en plein milieu d'une forêt, avec une cabane. Par terre. Oui, non, mais. Ah, ça fait style
avec
le gars
son masque.
C'est ouais, ça. Mais ça fait style le gars qui part faire un petit pique-nique tranquille au bord du lac, quoi.
Ben, en partie, il y a ça. On peut pas tout dire non plus.
Non, pas
hein,
tout dire, mais bon, voilà, c'est.
Mais il y a cet aspect-là aussi qui est là. Et à tel point qu'à un moment donné, ils s'oublient. Ils sont tellement pris par la beauté, une espèce d'ambiance paisible, parce que voilà, il faut pas oublier que c'est des kilomètres carrés, des milliers de kilomètres carrés qui sont zone interdite.
Et où il y a plus personne, quoi.
Et hormis la nature, d'une certaine façon, il y a un côté très Miyazaki où la nature reprend ses droits. Et une fois qu'on a enlevé l'homme du milieu, ben la nature, elle arrive toute seule à survivre. Hein. Elle n'a aucun problème, la nature. Ce qui pose problème, c'est l'homme au milieu. Donc on pourrait faire un débat d'idées, un débat philosophique très long sur ce bouquin-là. S'il y a des profs de lycée qui nous entendent, vous pouvez largement vous en servir. C'est une mine d'or.
sur la réflexion, pour une réflexion sur la place de l'homme sur la planète Terre et ce qu'il en fait, ce qu'il n'en fait pas et ce que la nature ferait si l'homme n'était pas là. Après un drame comme celui-là, quand on a un retour de reportage comme celui que nous propose Emmanuel Lepage, c'est
Et ça reste subtil parce que il est pas militant justement.
Non, il n'est absolument pas militant. Les questions qui se posent, c'est il y a aucun jugement, c'est les questions que lui se pose. C'est un questionnement qui est vraiment personnel.
Alors, il faut savoir qu'est sorti en parallèle chez la boîte à bulles, donc autre éditeur de BD, mais là qui pour le coup a sorti plus un carnet qui s'appelle Les Fleurs de Tchernobyl, donc dessiné par Emmanuel Lepage et Gildas Chazbeuf,
qui était l'autre dessinateur,
avec lui. Et donc ils ont sorti un carnet à la boîte à bulles de 64 pages à 17 €. Qui permet d'en apprendre un peu plus sur ça et peut-être de voir aussi une autre approche graphique qui pourrait être intéressante. Moi, ça m'a donné envie.
Ah oui, complètement.
Voilà, puis la boîte à bulles, petit éditeur indépendant qui n'en veut. C'est ça, bref, c'est toujours sympa.
De voir, n'hésitez pas.
C'est toujours sympa de voir une collaboration entre deux éditeurs comme ça. Voilà, je trouve ça plutôt cool parce que je trouve ça d'autant plus cool que j'ai reçu le papier qui parle des fleurs de Tchernobyl avec, donc là je vais le dire, c'est un service de presse qu'on a reçu. Donc en gros, c'est l'éditeur qui me fait la pub pour le bouquin éditeur. Chez un autre éditeur et je trouve ça très classe.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est très très beau, c'est très prenant. Moi, j'ai lu ça d'une seule traite alors qu'il y a quand même 160 pages, grand format, bien pleine, bien riche.
Oui, c'est voilà. Vrai. Puis on peut rester un moment sur pas mal de
choses. Je suis resté une bonne heure et demie, deux heures, complètement scotché là-dessus. Un pur moment de bonheur.
Bon, bah, Thio, tu repars avec, il faut que tu le lises.
Tu me le rendras ?
Non, je le garde.
Blotch ! Page !
Allô, Thio ?
Salut, Pied. Comment ça ?
Ouais, ça va. Bah, je suis un peu emmerdé. Là, je suis en train de bosser sur la splash page pour Rourke. Et je sèche un peu au niveau de l'idée parce que trouver un truc qui colle un peu à Rourke, c'est un peu la galère.
Bah, en même temps, tu m'as tellement bassiné avec en me disant que c'était génial, c'est trop bien et tout. Donc, bon, ça, tu disais, tu allais venir, non ?
T'entends pas comme un bruit, là ?
Non. Je sais pas, c'est un avion qui passe ?
Non, non, sérieux, il y a comme un bruit. T'as un problème sur ton téléphone ?
J'ai aucun problème. T'es dans le train ?
Non, je suis pas dans le train. Là, je suis chez moi.
J'en sais rien, moi. Écoute, peut-être ta fille. Hein.
Non, mais arrête, là. Arrête ta connerie avec ton... Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone ? Tu t'es mis à côté de quoi ? T'as des parasites que t'en peux plus ? T'es à côté d'une antenne ?
Je suis à côté de rien. Je cherche mon canapé.
Non, mais tu te fous de ma gueule, là. C'est pas possible. Encore une de tes blagues à la con. Arrête avec tes conneries.
T'es une petite parano ou quoi ? J'ai rien fait.
Non, mais c'est bon. T'as envie de me tuer les tympans, là.
Oh mais ça va, attends, tu quoi là, t'as tes règles ?
Bah, ça va, tu commences vraiment à faire chier. Hein. Bon, laisse tomber, je me démerderai, à plus.
Hello Isaac.
Ça va Théo ?
Ça va, tranquille.
Neuf.
Bah écoute, ça va, là j'ai Pied qui m'a appelé là pour le prochain One Eye Club, tranquille quoi.
Il était en train de bosser sur quoi ?
Bah il voulait faire sa splash pay là sur Rourke.
Ah oui, sur Rourke, ouais. Et il s'en sort, ça va ?
Bah, je sais pas, il me dit qu'il entendait un bruit. T'as un truc dans ton téléphone, toi aussi ?
Non. De quoi tu parles ?
Bah, t'entends pas ?
C'est non.
Quoi, tu fais quoi, là, chez toi ?
Là, tout de suite, je peux pas t'en parler, mais...
tu fais quoi ? Tu passes la ponceuse ou quoi ?
Non, écoute, a priori, pas grand-chose. Hein, je suis tranquillou sur le canap. Hein.
Non. C'est pas... Non, sérieux, tu es en train de tuer le tympan. Baisse le son, quoi, fais un truc.
Bah écoute, la télé, j'ai coupé le son quand j'ai décroché. Hein. Bon, il n'y a rien là, franchement.
Ouais, non, tu me souhaites, qu'est-ce que tu fais ? Ça va, dis.
Non, écoute, je t'ai dit, je suis sur le canapé, c'est bon.
Quoi, hein. C'est un truc innommable ou quoi ? Ça va, t'as des plaisirs secrets.
Non, mais écoute, ça va.
Putain, mais non, attends, oh, sérieux, ça tue quoi ? Oh, arrête.
Putain, tu psychotes complètement ou quoi, toi ? Thio ? Thio ? Oula, c'est n'importe quoi ça.
Donc alors, nous avions une... Enfin, non, Pied. On lui rend César ce qui appartient à César. Pied avait une première idée pour l'intro de la splash page, c'était un bruit. un bruit qui pue.
Finalement, on a préféré garder le bruit qui tue, je pense que c'est...
Oui, hein, parce que le bruit, voilà, c'était quand même plus sympa, parce que le bruit qui pue, ça...
En tout cas, franchement, ça fait flipper, cette petite impro, là.
Ouais, mais c'est parce qu'on va parler de Rourke, et que Rourke, ça fait un peu flipper, quand même.
C'est un film de Rourke. Non, mais il faut détendre l'atmosphère.
Oh la vache. Et là, le problème, c'est que, non, tu vois, j'ai déjà dit, mais le visage consterné, ça passe pas en podcast, quoi.
Ah, on voit pas la petite goutte au micro.
Non,
ah,
non,
merde.
Je l'ai fait pourtant, tu vois, j'ai fait couler avec le crayon, mais ça marche pas.
Alors, l'intégrale de Rourke vient de sortir, le premier tome en
tome
tout cas.
Un.
Oui, il y en aura un deuxième. Alors, Thio est très soulagé de l'apprendre, parce qu'il a cru que ça se finissait comme ça se finissait.
Vu la taille, je pense que les vendeurs de porte-à-porte qui avant vendaient des encyclopédies vont pouvoir retrouver du boulot. Hein.
Donc, le tome 1 qui est sorti chez Le Lombard. Une très belle édition intégrale, bourrée de bonus, et qui contient beaucoup de choses. Alors... Rourke, c'est une bande dessinée qui a paru il y a très longtemps dans le journal de Tintin, que moi j'avais lu en bibliothèque quand j'étais gamin. J'avais trouvé ça fantastique, génial. Et puis j'ai eu l'occasion de les retrouver chez un bouquiniste à pas cher, tu vois, des belles vieilles éditions de Rourke.
À quel endroit, en fait, du monde?
Martinique.
Voilà, il faut le situer. Là.
Ouais.
Le mec, il part en vacances en Martinique, et il revient des vacances, et il fait « Oh, Thio, j'ai récupéré ce super truc, c'est la première édition de Rourke !» Là, tu fais « Rourke, c'est quoi ça ?» C'est un truc que je disais dans le World Tintin, c'est Madeleine de Proust. Il est revenu, il était à fond, il me disait...
Ça avait un peu pris l'humidité, par contre.
Ça avait un peu pris l'humidité, les trucs, ils étaient gondolés et tout. Il fait, bon, par contre, il manque un tome, mais je vais réussir à le trouver, c'est sûr.
Sauf que le tome était épuisé.
Et ça fait combien d'années que tu le gères ?
Deux, trois ans. Hein.
Au moins, ouais.
Le tome épuisé, petit peu les boules. Surtout que j'ai appris entre-temps que les premières éditions de Rourke, c'est bien sympa, mais les éditions d'après étaient bourrées de bonus, en fait. Avec des pages en plus, des trucs comme ça. Donc là, tu te dis, ah, je bisque, parce que chaque dessin d'Andreas est un délice, tu les veux tous. Et donc, par le biais du web et compagnie, j'ai vu que Andreas était sur Twitter, j'ai vu que Le Lombard était sur Twitter, et c'était à mes tout débuts sur Twitter. Hein. Je l'étais tanné, Le Lombard, dire « Rourke, vous avez prévu de rééditer les tomes ? Ouais, on travaille sur un truc, etc. » Alors moi, j'ai commencé à essayer d'avoir les tomes d'après, tu vois. Et puis je me suis dit, j'essaierai de combler le trou après. Et en fait, non ! Un peu la loose. Et là, j'ai appris qu'intégrale sortait. Et là, j'ai fait « Bon, bah tant pis, je crois que je vais avoir des tomes en double, mais j'aurai l'intégrale de Rourke. » Donc, Rourke est une bande dessinée qui est parue en 79 dans le journal de Tintin. À l'origine, c'était des histoires courtes. On lui avait demandé de faire un peu des histoires courtes, type horreur, qui était dans un style graphique hyper inspiré du comics. Et en particulier, il ne s'en cache pas, de par les références qu'il balance dedans, par Bernie Wrightson et Neil Adams, qui étaient des génies. Bernie Wrightson est connu pour avoir bossé sur ses Swamp Thing, je crois, et il avait fait des superbes illustrations pour un Frankenstein de Mary Shelley, qui était assez bluffante. Neil Adams, ça a été, il me semble, les pros de comics me corrigeront, mais il a eu des grands moments sur Green Lantern et Green Archer. Un très 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 grand dessinateur de... je sais plus si c'était l'âge d'or, je crois que c'était peut-être l'âge d'argent. Ouais, non, on était en l'âge d'argent ou de bronze, je sais plus, enfin, du comics. De très grands auteurs. Et ce style très américain est assez surprenant, je trouve, pour Jean-Louis de Tintin, même si des auteurs comme Vance à l'époque étaient aussi très influencés par les Américains à l'époque.
Là, je suis désolé, mais tu me parles d'un temps que je ne connais pas.
Voilà.
Je vous parle d'un temps
que les moines avaient.
Je vois qui c'est, mais
le dessinateur de presse.
Oui, mais c'est que là, tu me parles voilà, d'une époque au journal de Tintin. Je suis désolé, mais je ne savais pas quoi.
Donc, et je suis tombé sur des récits que je trouvais très Lovecraftien dans le ton, même si Andreas, donc l'auteur, a démenti. Il s'inspirait plus des contes à la Edgar Poe, des trucs fantastiques, plus limite science-fiction, plus avec beaucoup de mystère.
Mais pourtant, je suis d'accord, je trouve qu'il y a beaucoup du Lovecraft.
Il y a beaucoup de Lovecraft dedans. Et donc, des histoires courtes qui n'étaient pas forcément liées avec ce héros qui lui plaisait, avec cette grande veste noire.
Ses cheveux blancs.
Ses cheveux blancs, cette allure un peu inquiétante, qui est une sorte d'enquêteur spécialisé dans le fantastique et le surnaturel. Et puis, on lui a dit de faire une suite, et il a voulu commencer, pour sortir en album, il a commencé à vouloir faire une sorte de fil rouge. Il a repris tous les éléments qu'il avait dit, j'ai trouvé un moyen de les relier pour que ça tienne la route. Et il l'a fait. Et d'ailleurs, il explique sa façon de travailler le scénario que je trouve magistral. Donc, dans la préface, qui est, en gros, il y a un superbe côté documentaire. C'est vraiment une belle intégrale, parce que ça nous remet bien dans le contexte, en plus. C'est toujours ce que j'apprécie, moi, dans les intégrales. C'est-à-dire qu'on... On nous dit, on fait un intégral parce que c'est quelque chose qui est historique et qui mérite d'être remis dans son contexte pour qu'on comprenne et qu'on accepte aussi les dessins qui ont peut-être un peu vieilli, surtout les couleurs, là, pour le coup. des premiers tomes. Parce que, bon, on reviendra après sur ce qui est à l'intérieur. Il explique qu'en gros, bah, lui, il se dit que il n'a pas forcément de plan à l'avance, mais qu'il ne faut rien oublier. Alors, tu as la phrase exacte là,
L'important, ce n'est pas de tout prévoir, c'est de ne rien oublier.
Voilà. Ouais, j'étais presque... Voilà. Et on se rend compte que dans ce récit, c'est exactement ce qu'il fait. Et c'est-à-dire que je pourrais comparer à certains scénaristes de Lost qui n'avaient rien prévu et ont oublié beaucoup de choses en cours de route quand ils nous ont fait le final de la série.
Lui, on ne peut pas faire de mauvais jeu de mots, les scénarios se sont un petit peu Lost tout seul.
Voilà. Lui, il arrive à ressortir des éléments plusieurs tomes après, on fait « Waouh, putain, il y avait ça, c'est un détail tout bête », et il a réussi à le réexploiter. Andreas a aussi une particularité, c'est que c'est un auteur allemand. Mais un auteur allemand qui publie en France. Donc il est né en Allemagne, il s'est installé à Bruxelles, où il a fait des études de dessin.
Il a vécu en Belgique.
Voilà, à l'Institut Saint-Luc, et je pense qu'il est en France maintenant, il me semble. Oui, parce qu'il est sur Paris, puis Saint-Brieuc, et enfin Rennes. Wikipédia est très précis, il est à Rennes depuis 95, t'as vu un peu comme ils sont précis. Donc il a bossé sur le journal de Tintin, sur Métal Hurlant, ce qui tient à peu près la route, et Rourke, son premier personnage majeur. Un autre personnage majeur de Andreas, c'est Capricorne, qui est apparu dans Rourke. D'ailleurs, un des tomes de Rourke s'appelle Capricorne. C'est un de ceux les plus épuisés du monde. J'attends le tome 2 de l'intégrale pour pouvoir le relire, parce que celui-là, pour le trouver, autant te dire que... Parce que, autant Rourke, de par son côté historique, n'a pas forcément super bien cartonné, super bien marché, j'espère que cette intégrale va aider à réhabiliter le...
Alors, c'est pas très très vrai, étant donné que, je crois quand même, dans la préface, ils disent que la première fois, ils ont sorti un tome complet, les 100 000 exemplaires sont partis rapidement, quoi.
Ouais, mais j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu avec le temps parce qu'il y avait ces autres séries.
Oui, c'était perdu avec le temps, mais enfin, Rourke a quand même été un vrai succès au départ.
Parce qu'il a publié tellement. Oui, au départ, c'était un succès, mais c'est pas une. C'est une série qui est en train de devenir une série oubliée, moi, j'avais l'impression.
Oui, mais je dirais, dans la bande dessinée, il y en a tellement qui deviennent oubliés que c'est. Voilà. C'est...
Ouais, mais je trouvais que c'est. Je trouve pour moi que c'est une série qui a une valeur historique, qui est très importante. Enfin, dans le genre, quoi. Donc. Bah, sinon, je pense qu'ils auraient réédité plutôt les tomes, quoi. Ils n'auraient pas laissé le. Enfin, on aurait. Je ne me serais pas retrouvé pendant 3 ans sans pouvoir me choper chez l'éditeur un tome si ça marchait si bien que ça. Imagine qu'un J'ai Tintin.
Pas dit que tu ça trouves marche. Pas un tome.
Oui. Oui, oui, ça marchait.
Ça a marché.
Ça a marché. Donc, Capricorne est un personnage qui est issu de ça. Il y a une série Capricorne. Il a ensuite aussi sorti Arc. Il a aussi fait des séries genre Cromwell Stone. Il en sort un tous les 10 ans. On aura peut-être un l'an prochain, apparemment. Ouais, enfin, comme il en sort un tous les 10 ans.
L'année qui suit, une année bissextile, dont le chiffre.
Comme il en sort un tous les 10 ans, les gens se disent, eh, peut-être que l'an prochain, on aura un prochain. Et il a surtout une grande particularité, c'est son dessin. Qui, si au départ, était très inspiré donc, de ces grands illustrateurs américains, a très vite été marqué par ses études d'architecture. Avec un travail sur les décors, la perspective, qui est magistral. Je trouve qu'on retrouve un peu le travail de ce que pouvaient faire, comment ils s'appellent les auteurs, zut. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire énorme de Peters et Schwittens. J'ai oublié le nom de la BD. Je pense que tu vois aussi, ça y est, on a tous un trou sur le nom de la BD de Schwittens et Peters. Bon, ça va nous venir, Isaac, part en recherche.
Citer. Il n'y a pas cité dedans.
Ouais, il y a peut-être cité. Vas-y, Isaac, fais ta recherche. Nous, on continue à parler. Tu nous diras. Quoi. Donc, qui eux ont aussi un côté très architectural, mais plus froid. On est moins dans la gravure. On est dans quelque chose de vraiment plus lisse. Lui, il arrive à créer quelque chose de très vivant dans son trait. On le voit dans ce tome-là, sur par exemple le cimetière des cathédrales. Quand il nous fait ce méga double page sur le cimetière de cathédrales. Sachant que pareil, sa façon de construire ses histoires est complètement hallucinante. Il a pensé au cimetière des cathédrales, les cités obscures. C'est les cités obscures.
Le guide des cités.
Oui, mais c'est un de leurs tomes. C'est les cités obscures, ça y est, ça m'est revenu. Donc, il a eu l'idée de faire un cimetière de cathédrale, il a trouvé l'histoire qu'elle est avec. Et il s'est arrangé pour que ça colle avec toutes les intrigues qu'il avait mis précédemment.
C'est surtout ça qui est hallucinant, quoi.
Oui.
C'est de réussir à récupérer tous les détails précédents pour monter finalement un fil rouge, voilà, qui va lier tous les albums
et qui va surtout lui permettre d'amener le dessin, l'image qu'il avait. Et puis surtout, il y a un travail sur la mise en page. Il arrive à la déstructurer, à faire partir ses pages dans tous les sens. Et si on compare aux BD d'époque, il me semble qu'on a les Valérian, qui étaient pas loin. Hein. Où tu te souviens, j'avais parlé de ces problèmes qui faisaient un peu ancien, où il était obligé de mettre des flèches pour te dire dans quel sens tu devais lire. Lui, à aucun moment, on utilise ces artifices-là. Ces pages sont hyper lisibles tout le temps. On sait toujours dans quel sens les lire. On ne se perd jamais dans le dessin. Et on se laisse complètement embarquer dedans, sauf de temps en temps, on est obligé de faire un arrêt sur image pour rester à faire « Comptons les petits traits qu'il a fait. » Et là, on meurt de vieillesse en comptant les petits traits qu'il a fait.
T'as dit quoi, toi, pour le dessin sur Rourke, justement ?
Alors, moi, pour le dessin sur Rourke, j'ai mis... Alors déjà, pour le genre, j'ai dit que c'était du conte fantastique. Pour le dessin, j'ai mis du Escher en gravure.
J'ai mis petits traits pour grandes œuvres.
Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu Escher dans le sens où ça part dans tous les sens, mais c'est moins... alambiqué, mais...
Alors, juste, tu vois, pour te contredire une fois...
Quand j'ai... Page 156 voilà. Dans l'intégrale, tome 1.
Il y a une page où il y avait une case qui ne se lit pas dans le bon sens, et Isaac est tombé dessus. C'est la seule qui ne se lit pas. Tu vois, t'as dit, tout se lit facilement, et ben ouais, c'est la
là,
seule...
Là, j'étais en train de regarder, je fais... Ouais, franchement, là, pour le coup, il y a 6-7 cases et j'aurais bien aimé.
Non, non, c'est qu'en plus, c'est la seule case en fait, qui est inversée.
Les bulles sont inversées.
Tu cliques de droite à gauche, c'est la seule.
Voilà, qui est tombée dessus. Tu vois, ça, c'est le truc.
D'Isaac. Hein.
Isaac, ouais. Ah, bravo. Il ne trouve pas les cités obscures, mais il nous trouve la case.
Tu
dis guide des cités.
Ouais, ben, j'étais en train de cliquer dessus.
Ouais, c'est un côté graphique.
C'est vraiment, tu rentres dans de la gravure après quand tu vois le petit bonus qu'il y a. Sur, ouais.
Là, on est en train de regarder une image d'un immeuble qui est en train de se décomposer en puzzle. Ouais,
c'est une tâche pleine et en fait, il a totalement déstructuré. Vous imaginez un immeuble et en fait, il le sépare en morceaux.
Un petit côté Magritte dans l'idée.
C'est ça, complètement.
Après, ouais. Je te dirais, tu as aussi les petits bonus que tu as après la première histoire des fantômes.
Oui, on va revenir sur l'histoire de.
Et puis, toujours au niveau du dessin, au-delà du dessin en lui-même. Il y a la façon dont des pages sont construites.
Oui.
Il y a une recherche au niveau de la forme des vignettes, au niveau de l'organisation de la page, la dynamique que les vignettes vont imposer à la page. C'est moi qui ne connais absolument rien à Rourke. Rien que pour ça, rien que pour le visuel, ça vaut absolument le coup.
Donc, parlons maintenant un peu de cette édition en particulier. Donc, on commence par un gros dossier qui nous raconte un peu les origines,
il y a comment 80 ça a fonctionné,
pages à peu
etc. Près,
ouais. Qui est agrémenté de vieux dessins d'époque, ouais. Etc.
Qui explique un petit peu tout, voilà, justement, sur la construction de Rourke, de l'intégrale, de comment travaille Andreas, de ses sources.
Et avec plein d'illustrations. Alors, malheureusement, elles ne sont pas forcément datées. On ne sait pas de quand elles datent, etc.
C'est un peu dommage.
Parce qu'il y a des mélanges un peu sur les époques. Mais bon, ça passe très très bien. Puis, on a le tome 0, Les Fantômes, qui est sorti en tome seul, en parallèle, pour les gens qui avaient déjà toute la série. Ceux qui l'ont acheté à l'époque où c'était tout trouvable.
Voilà. Et là, ça, c'est en noir et blanc.
Alors, c'est en noir et blanc, alors qu'il est sorti en tome isolé, en couleur.
Et là,
dans l'intégral, il y a en noir et blanc. Et je suis très content.
Et là, il y a encore plus de plein de petits traits.
Parce que là, en fait, on prend donc les fantômes en noir et blanc. Et là, moi, j'ai fait Watcha. Voilà. Je sais pas combien de temps est-ce qu'il a mis pour le faire, mais c'est voilà.
Il est assez prolifique comme auteur en plus. C'est ça qui est terrible.
Mais non, dans ce cas-là, c'est fou. Non, c'est. Non.
Oui, les petits traits.
Voilà. C'est-à-dire qu'on est sur un paysage avec des falaises, des rochers. Et c'est, voilà. Je pense qu'une vignette doit à peu près lui prendre 2 jours.
Je me demande dans quel format il travaille, tu vois, pour le coup. Parce que
je sais pas.
Je pense qu'il a travaillé sur un grand format. D'ailleurs, je pense qu'il a travaillé sur plusieurs formats différents en fonction des histoires. Parce qu'on verra que dans certaines histoires courtes qu'il y a après, le trait est plus gras. Et ça passe un peu moins bien pour le coup. Donc on a cette histoire-là complète où on a une enquête de Rourke très classique. Il a un vieil ami qui le fait enquêter parce que il y a eu des disparitions. Il essaie de savoir d'où ça vient et on apprend un peu sur son passé, etc. On revient ensuite sur quelques planches, enfin quelques illustrations qu'il a dû faire pour l'occasion, des illustrations pleines pages qui des boîtes, l'ornement.
Qui déchire.
Voilà. Dont un portrait de Rourke qui. Waouh! Et on arrive sur, enfin, Fragment, le premier album de Rourke qui est. Je pense qu'il mérite bien le mot de fragment car c'est plein d'histoires courtes. Avec encore des superbes illustrations au milieu. et les histoires courtes. Alors, la première histoire courte, ça s'appelle Un siècle pour une maison, et qui parle d'une maison où, en fait, il se passe des trucs bizarres la nuit, il y a quelqu'un qui l'appelle parce qu'il s'inquiète, etc. Il trouve des choses bizarres, il commence à enquêter pour savoir qu'est-ce qui lui arrive. Et en fait, il y a des sortes de visiteurs, limite intraterrestres, qui débarquent, un truc très bizarre.
Ça fait penser un peu à Des Profonds, pour ceux qui sont fans de
lui. Ouais, mais un côté un peu plus...
plus science-fiction.
Ouais. Science-fiction, voilà. Avec toute une explication du pourquoi du comment. L'histoire suivante, c'est La Tâche, il me semble.
Ouais.
C'est sur quelqu'un qui trouve une superbe toile de peinture, un de ses amis artistes, avec une tâche dessus qui essaie de vouloir l'enlever.
D'abord, c'est le point fatal.
Ah, le point fatal, pardon.
Le point fatal, c'est sur la boule.
C'est, oui, un de ses amis chercheurs qui a trouvé sur une boule l'endroit qu'il peut trouver sur chaque sphère, l'endroit où si tu appuies avec même une force très faible, la sphère va éclater. Et là, elle se pose la question de où serait ce point fatal sur la Terre qui est une sphère ? L'endroit où le moindre petit appui ferait exploser la sphère.
Ouais. Tu vas dormir moins tranquille ce soir. Hein.
On enchaîne sur La Tâche. C'est l'histoire un peu marquante.
Conte de mouche, ne te pose pas n'importe où.
Parce que c'est elle qui fait un peu le lien. La Tâche, donc, un ami qui a trouvé une toile jolie, il va enlever une tâche dessus. Et en fait, La Tâche est vivante et possède les gens, et on ne sait pas trop pourquoi. Et je crois qu'on arrive à la fin du premier tome. Non, on a L'Eau Vallée.
Bah, L'Eau Vallée, c'est ce qui va justement lancer quand même une grosse partie d'intrigue.
En gros, Rourke trouve au milieu d'une zone une jeune fille qui a perdu la mémoire. Et commence un peu l'enquête pour savoir là-dessus. On a des détails très marrants, le coup des allumettes, où il compte les allumettes qu'il a utilisées pour descendre dans une grotte, parce qu'il sait qu'il lui faut le même nombre d'allumettes pour remonter. C'est le genre de truc auquel tu penses jamais. En jeu de rôle, c'est le genre de truc que tu le réutilises après.
Et surtout, il garde même les résidus d'allumettes.
Oui, pour pouvoir les compter.
Non, mais c'est aussi pour pouvoir, après, même si tu as envie, tu vois, tu peux brûler l'autre partie.
Oui.
C'est là où tu avais les doigts.
Bref, on enchaîne là-dessus. Les deux premiers tomes, en fait, c'est Fragments, et le tome suivant, c'est Passage. En gros, mettre en place l'intrigue. Dans Passage, on voit vraiment l'intrigue qui commence à se créer pour faire un lien entre toutes les intrigues parallèles. Et à la fin de Passage, il arrive un gros problème à Rourke, je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de spoiler. Et on arrive à Le Cimetière de Cathédrale. Et alors là, on fait une sorte de pas de géant en avant. Graphiquement, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, c'est monstrueux. Il y a beaucoup de... Enfin, il a trouvé son style, en fait. On a l'impression qu'il se cherchait en s'appuyant sur des références, comme on peut faire quand on débute un peu en artiste. Tu vois, je disais, les Roy Hodgson, les Neil Adams, etc. Quand tu arrives sur Le Cimetière des Cathédrales, tu sais que c'est du Andreas et ça ne peut être que ça. Quoi. C'est un travail sublime de dessin. Donc, en gros, Rourke est retrouvé à moitié amnésique dans la jungle par une équipe de chercheurs qui essayent de trouver le cimetière de cathédrale que des... Comment ? Que des missionnaires auraient fabriqué au milieu de la jungle. Là, on trouve vraiment le récit d'aventure, un petit côté Indiana Jones, avec, au début, il y a les carnets de recherche, etc. Les objets.
Le talisman,
etc. Et la première apparition.
Des chouettes,
qui sortent de narrateurs, qui nous parlent directement à nous. Ces chouettes blanches derrière. J'ai oublié de dire qu'il y avait un petit court récit qui avait dû paraître dans un magazine, dans un Tintin derrière, qui n'avait jamais été regroupé derrière. Et on finit par encore un court récit, qui pareil, je disais qu'au niveau du dessin, on a l'impression qu'il a travaillé sur un plus petit format, parce que l'ancrage est un peu plus brut, un peu plus gras. Ce qui m'a surpris dans Le Cimetière de Cathédrale, c'est les couleurs, justement. Autant dans les premières histoires de Rourke, elles faisaient un peu passer, on sentait un petit côté un peu vieillot, autant dans Le Cimetière de Cathédrale, c'est d'une modernité. Ça n'a pas vieilli un brin. Je trouve les couleurs magnifiques. D'ailleurs, Cimetière des Cathédrales, j'ai été revoir mon ancienne édition, parce que sur le coup, je me suis demandé, mais ils les ont refaites, c'est pas possible. Ben, en fait, non. Voilà. Je crois que j'en ai dit beaucoup sur Rourke.
Je crois qu'on a senti que ça t'a plu.
Ouais, on t'a un peu laissé parler, là, pour le coup.
Sur le scénario, tu en penses quoi, toi, globalement ?
Tiens, c'est toujours le même mot. Wacha.
Wacha.
Voilà, non, moi je trouve c'est impressionnant cette capacité qu'il a eue en fait de réutiliser toutes les petites histoires qu'il a fait au début pour construire quelque chose qui est qui dans sa globalité se soutient mais parfaitement.
Oui.
Et c'est pas voilà, à aucun moment c'est bon, c'est le trait un peu gros, c'est voilà, c'est vraiment amené avec des gros sabots. Non, c'est fluide quoi. C'est fluide et c'est d'autant plus admirable, voilà, comme tu dis, c'était pas prévu comme ça au départ.
Ouais. Enfin bon, un très bon boulot. Moi j'ai mis j'ai mis complot ésotérique. Une sorte de, on sent qu'il y a un complot latent. Il y a plein de personnages mystérieux sur lesquels on a envie d'en apprendre plus. On ne sait pas exactement tous les tenants et aboutissants. On sent que tout se tient, mais on ne sait pas comment et on a vraiment envie d'en apprendre plus.
Parce que vous finissez le tome 1 vraiment sur votre fin.
Oui, toi, t'as cru que c'était fini.
Mais non, j'avais pas vu. Voilà, je suis désolé. J'ai feuilleté ça aujourd'hui même en une journée. Donc ça se lit très très vite. C'est que du plaisir. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait marqué l'intégrale tome 1. J'ai pas vu le petit 1 à côté, et donc quand je suis arrivé au bout, j'étais
C'est une blague!
Attends, tu vas pas me dire que t'as fait une intégrale et ça finit comme ça, c'est pas possible!
Voilà. Bon, bah j'attends le tome 2 avec la plus grande impatience. J'ai le tome suivant en solo si tu veux t'avancer.
Ouais, on aura le temps.
Voilà. Et tu peux le garder, Isaac, si ça te donne envie de le lire.
Oui, je veux lire, oui, oui!
Bon, par contre, c'est une intégrale à 33€ quand même. C'est une belle intégrale, c'est un gros.
Ouais, il y a du contenu quand même. Hein.
Mais honnêtement, ça les vaut parce que juste déjà pour le. Enfin, moi, la petite préface d'Andreas m'a beaucoup plu.
Oui. Bah, il y a 3 tomes, donc déjà, ça coûte moins cher que les 3 tomes seuls. Il y a du bonus, il y a plein d'illustrations. Non, c'est une belle intégrale qui vaut le coup, c'est du beau papier, c'est. Ça vaut son pesant de cacahuètes.
Ah, au fait, je te dis comme ça tout de suite. Tout à l'heure, à l'école, j'ai fait tomber une unité là-dessus. Ouais, tu retrouves la page.
Allez, au revoir. Je te hais. Oh, regarde cette tache d'unité là, comme il est fort ce Andreas!
Putain, elle colle et tout.
Elle est en relief! Hey,
c'est la tache magique, c'est la tache du Nutella!
C'est le retour de la tache du Nutella!
Online!
Pour ce online, je vais vous parler d'une revue hebdomadaire drôle, c'est le sous-titre de cette revue, qui vient d'apparaître, qui s'appelle Mauvais Esprit, qui suit le modèle du payant sur Internet.
Du payant?
Ouais!
P-A-Y.
Ah d'accord, non, parce que lointainement, si tu veux, j'ai compris.
6 lettres, payant. Pas mieux. Comme Vincent. Payon,
comme Vincent, comme le ministre de l'Éducation. Là, j'ai dit waouh.
Et là, on sent que ton côté instit reprend le dessus.
Non, attends, et oh, la blague de la semaine avec payant, ça fonctionne. Hein.
Ouais. Non.
Bon, donc, ça a été lancé principalement par James de Autoprod, qui nous a lancé, donc, c'est plein de petites histoires courtes, c'est des trucs vraiment qui se lisent en entier, des séries courtes, par plein d'auteurs comiques, moi, que j'aime beaucoup. J'ai tous les cités, même si je ne les connais pas tous à la base.
Donc, et non, Fab Vincent Payon n'est pas un auteur comique. Non.
Fab Caro, Fabrice R, Nicolas Pinet, Dubuisson et James... Terreur et Gers, Florence Dupré-Latour, Pascal Jousselin, Nicolas Poupon, Pochep, j'adore Pochep, Soulcier, Thierry Martin et Beignet. C'est plein d'auteurs de, un peu de cette nouvelle vague comique qui font des histoires courtes, plus ou moins débiles. Par exemple, vous adorerez les histoires de Monsieur Luc.
Très débile, je suis d'accord.
De quoi ? Ouais, très débile. Hein. C'est pas possible. Tiens. Regarde les histoires de Monsieur Luc, ça va te faire plaisir. Tu peux glisser. C'est Monsieur Luc. Voilà, tu vois déjà. La particularité, c'est que les premiers, donc c'est hebdomadaire. Les deux premiers numéros seront gratos, histoire qu'on se fasse une idée. Donc Monsieur Luc s'ennuie. Donc les deux premiers tomes sont gratos. C'est de l'humour qui se prend pas la tête. C'est léger, c'est fun. C'est plein d'auteurs très différents, donc niveau gratos. C'est léger.
C'est le léger là.
Oui, mais c'est parce que c'est Monsieur Luc, c'est peut-être pas le plus léger, effectivement. Alors, un petit reproche, ça se tient un peu vite. Alors, ils vendent 1,50€ le numéro. Par contre, on peut s'abonner et avoir pour 12 semaines pour 9€. Donc, ça fait 3€ par mois, ce qui est tout à fait raisonnable pour avoir sa petite dose de BD humoristique. Je me demande s'ils n'auraient pas dû suivre, pour le coup, un petit peu le modèle des autres gens, de nous proposer une petite planche par jour pour créer une espèce de rendez-vous. Parce que pour le coup, moi, j'ai eu l'impression que ça se lisait un petit peu vite, en tout cas. J'ai hâte de voir le deuxième tome, et je pense que je vais peut-être me laisser convaincre. Parce que pour le moment, moi, ça m'a bien fait rire. J'ai vu ça vite fait ce midi, et j'ai pris un grand plaisir. Voilà. Pour pouvoir les voir, il faut bien sûr se créer un compte, même si ça n'engage à rien. Hein. Ça leur permet à eux, j'imagine, de se faire un peu des statistiques pour savoir combien est-ce qu'ils vont réussir à convertir de personnes qui viennent pour essayer au modèle payant. Voilà.
Donc, désolé, on lit. Hein.
Ouais, vous êtes en train de lire.
C'est des choses qui sont très différentes. Hein.
Oui, c'est très différent, c'est très varié. Je pense que n'importe qui peut y trouver un petit peu son
n'importe
humour.
Quoi.
Et je pense que justement, du fait que ce soit plein d'auteurs différents, on a à chaque fois 2-3 planches à tout casser. On n'a pas cet effet trop répétitif qu'on peut avoir, comme on parlait dans Damien tout à l'heure.
Avec Damien, c'est un... Enfin, Jazz, et j'ai oublié l'autre, Tom.
Oui, pourquoi pas.
Ça intègre ça.
Ouais. Voilà, moi j'ai trouvé ça sympathique. C'est une initiative que je salue, parce que on va voir si vous réussissez à faire...
Salut
mâcher le modèle payant. Ah, vous êtes plus en forme qu'au début, vous étiez sage, là, on sent que la fatigue arrive. Donc, nous arrivons à la fin de cette émission.
Un cocktail, vite.
Un cocktail, Isaac, vas-y.
Tu penches ? Allez.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, vous pouvez venir traîner sur notre compte Facebook, sur mon compte Twitter. Allez laisser des étoiles et des commentaires sur iTunes et aussi sur Podcast France. En plus, Podcast France, il n'y a pas besoin de compte, il n'y a pas besoin d'avoir iTunes, donc c'est quand même vachement plus pratique. Et puis... Vous pouvez aussi, ça y est, j'ai perdu. Vous faites tellement déterré là.
Vous pouvez faire aussi des commentaires et tout, plein de commentaires. Donc,
oui.
Vous pouvez aussi voter sur nous sur les European Podcaster Wrestling Match Awards.
Voilà.
Awards, comme ça, du coup, nos parents seront vachement heureux, ils seront fiers de nous.
En tout cas, je voulais remercier.
Gâteau à la smoule.
Gâteau à la smoule.
Je voulais remercier nos commentateurs qui, sur les dernières émissions, ont été très présents. J'ai pas dit mes co-animateurs, j'ai dit les commentateurs.
Pardon.
Les gens qui laissent des commentaires sur le site.
Tout en fait, Thierry.
Je sais qui nous parlait à nous, en fait.
Voilà, non, qui ont laissé des commentaires très intéressants, ont un peu complété, de temps en temps, on dit des âneries, peut-être un peu trop souvent même, qui nous ont corrigés, qui ont apporté des petits suppléments à ce qu'on avait à dire. Et nous, moi, ça me fait très plaisir, parce que ça prouve que, il y a des gens qui nous écoutent et qui apprécient assez ce qu'on fait pour prendre le temps. D'aller écrire un truc sur notre site, ce qui est quand même plutôt simple.
Et puis, ce sont des gens de qualité, puisqu'ils arrivent à trouver les 7 erreurs cachées dans chaque émission.
Sur ce... au revoir. Merci, Isaac, pour cette superbe référence cryptique. On se retrouve dans 15 jours. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir, les gens.
Moi, ce qui me ferait quand même peur, c'est qu'il y ait des gens qui, du coup, cherchent les 7 erreurs à chaque fois, tu vois.
Peut-être plus ça.
Au revoir, les gens.
À bientôt. Ciao.
En fait, je t'entends pas parler, mais j'entends juste le mouvement de tes lèvres.
C'est sensuel.
J'entends le mouvement de tes lèvres, c'est sensuel. Super.
Tu l'as enregistré, celui-là, j'espère. Ah oui, il est bon, celui-là.
Tu sens ma sensualité ?
Je peux pas travailler avec vous, c'est pas possible.
Ça provoque chez moi une certaine raideur. Deux doigts, coupe fin.
Référence à James Bond. Attention, référence à James Bond. Là, voilà.